Donc bonsoir à tous, bienvenue à l'Ethnocafé. Donc je suis Jean Fayat, médecin et anthropologue. Je suis initiateur de l'Ethnocafé et j'anime le projet dorénavant avec Lia Arthur qui est co-gérante avec moi. Donc l'Ethnocafé, c'est un institut de recherche en anthropologie donc qui vise à produire de la connaissance sur ce que nous sommes et particulièrement sur le soin. Nous travaillons selon une méthodologie particulière, nous allons en discuter. Nous produisons le résultat de nos travaux dans des ouvrages édités par les éditions L'Ethnocafé. Et il y a des temps de recherche propres aux chercheurs de l'Institut et des temps collectifs par à la fois ces soirées de rencontres et des temps de plus formels de formation. Tout vous est détaillé sur le site internet de l'Ethnocafé. L'Ethnocafé a trois axes de recherche principaux. Le premier axe, c'est qui est un peu le cœur de l'Institut, c'est les poétiques de soins. L'idée, c'est de se laisser enseigner par la poésie ou par le regard poétique pour voir le soin différemment et ouvrir le champ sur ce que soigner veut dire. Le deuxième axe qui en découle en quelque sorte est la République de l'Ethnocafé, où à la lumière du premier axe, on travaille à ce que comment peut s'organiser la vie ensemble et le soin ensemble. Quelles sont les grandes dimensions de la politique de soins revue à la lecture de l'Ethnocafé. Le troisième axe est celui de la méthodologie de recherche. L'Ethnocafé est une méthodologie de recherche singulière. Et du coup, on voulait dédier trois soirées à cette question-là sur notre méthode de recherche. La première soirée, je vais vous en faire un parcours par cet enregistrement. Le titre, c'était l'Ethnocafé entre science et expérience. Donc l'idée, c'est plus de reprendre un peu l'histoire du projet, comment on en est arrivé aux questions d'aujourd'hui. L'idée, c'est là de soulever des questions, de poser un peu les jalons de l'Ethnocafé. La prochaine soirée, donc elle est programmée pour le 29 janvier. Nous verrons ce qu'il en est. L'idée c'était plus de rentrer dans le détail et de vous présenter de façon plus détaillée comment on travaille par l'exposition notamment de notre méthodologie dite mouvementée. Il y aura aussi une formation prévue sur ce thème-là le 5 décembre. Et la troisième soirée, le 3 mai, nous rentrerons là encore dans un versant un peu plus pratique que ce que je vais vous présenter là, sur la poétique de soins et quel savoir permet la poésie. Donc là me rejoindra Lia Arthur et nous vous présenterons donc le 3 mai cette dimension qui allie finalement en quoi la poésie a à voir avec notre méthodologie. Il y aura une formation dédiée sur le sujet le 5 juin. Pareil, vous aurez toutes les infos sur le site. Donc aujourd'hui, le thème de notre soirée, c'est l'Ethnocafé entre science et expérience. Donc l'idée, c'est un peu de reprendre l'histoire du projet, hein, qui est assez liée à mon histoire personnelle, puisque l'Ethnocafé existe depuis 8 ans maintenant, et que j'étais, pour ainsi dire, en solo, en quête de collègues pendant les 7 premières années. Le projet est né en partie de mon parcours personnel de recherche, et notamment de mon trajet à l'université entre de la médecine à l'anthropologie, puisque à l'issue de mes études de médecine, j'ai entrepris des études d'anthropologie. Et je vais vous parler un peu de ce trajet-là, des questions qui ont été soulevées par ce trajet, des questions qui ont été mises en évidence dans ma thèse d'anthropologie, et thèse à partir de laquelle il y a le premier livre des éditions L'Ethnocafé qui a été publié, donc qui s'appelle « À la recherche d'épistémées ». Vous trouverez un résumé écrit, un résumé audio sur la page dédiée au bouquin dans les éditions L'Ethnocafé. Donc c'est intéressant. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait l'usage dans le champ de la recherche de parler de soi, mais à l'ethnographie, on est beaucoup plus à l'aise avec ça qu'on peut l'être dans le milieu académique, en partant du principe que c'est très intéressant que le chercheur parle de sa propre histoire, puisqu'il va voir le monde à partir de ce qu'il est, et finalement c'est une condition pour nous de validité des travaux que de partir de son expérience. Et voilà, moi c'est Georges Devereux, hein, dans son très beau bouquin de l'angoisse à la méthode, qui m'a appris ça, qu'il était dans une expérience tout aussi importante de s'intéresser à l'observateur qu'aux personnes observées. Donc le principal travail de recherche que j'ai fait et qui a permis de poser les bases de l'ethnocafé, c'était ma thèse d'anthropologie, qui partait d'une question profonde de ma pratique médicale, qui était celle de la vaccination contre l'hépatite B. J'ai pratiqué mon terrain de recherche sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, et la question centrale était finalement de répondre aux enjeux par rapport à la vaccination à l'hépatite B, où la santé publique et l'épidémiologie nous présentent cette maladie comme, en tout cas à l'époque, hein, c'était maintenant il y a une quinzaine d'années, comme un enjeu de santé publique majeur, hein, puisque l'hépatite B, avant la crise du Covid, était la maladie infectieuse qui tuait le plus en France, avec l'hépatite C, pour laquelle il y a des vraies avancées thérapeutiques, et l'épidémie de grippe. Donc à peu près 3 000 décès par an, 300 000 personnes infectées. Et il y a un vaccin disponible, mais de fait, ce vaccin ne fait pas du tout l'unanimité. Et quand vous prenez l'intégralité des médecins, par exemple des médecins généralistes, ou des médecins aussi, si vous alliez les spécialistes, les médecins dits alternatifs, les avis sont complètement divergents. Il y a autant de médecins pour dire qu'il ne faut pas vacciner que de médecins pour dire qu'il faut vacciner. Voilà, sur la dizaine de médecins que j'ai rencontrés, en gros, un tiers était plutôt pour le vaccin, un tiers était plutôt contre le vaccin, et le dernier tiers était un peu dubitatif sans trop savoir comment se positionner. Alors, ce constat de la diversité des savoirs chez les médecins des pentes de la Croix-Rousse, évidemment montre combien, par rapport à un enjeu de santé publique qui pourrait paraître évident, grosse maladie, grosse mortalité, vaccin, allez, on y va, par rapport à cette diversité des opinions, montre évidemment que la médecine est évidemment une science humaine, et qu'elle ne se limite pas à l'exécution de consignes univoques, de ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les faits. Donc je me suis lancé dans ce terrain de recherche, en essayant vraiment d'avoir une approche anthropologique, hein, c'est-à-dire que la question c'est vraiment de s'extraire du faux et du vrai, hein, c'était pas la conclusion de thèse ne visait pas à savoir si oui ou non le vaccin était intéressant, si oui ou non l'hépatite B était un problème de santé publique majeur, mais voilà, l'idée c'était de s'extraire définitivement de la notion de croyance, hein, pas cataloguer les uns comme croyants et les autres comme incroyant, mais d'aborder les choses avec du recul dans une perspective anthropologique. Donc mon travail de thèse s'est réparti en trois grands paragraphes, trois grandes parties. La première, la construction de la vérité des médecins. La deuxième, le rapport du médecin à la réalité biologique. Et la troisième partie, la recherche d'épistémé, les conclusions qu'on pouvait tiré de ce travail-là sur la philosophie scientifique. Donc là, je vais vous parler brièvement de la construction de la vérité des médecins, et je me vais plus m'appesantir sur le rapport à la réalité biologique des soignants, notamment ce qui est le thème de notre soirée, sur le rapport des soignants à la science et le rapport des soignants à l'expérience. Alors pour ce qui est du rapport de la construction de la vérité des médecins, je passe brièvement, vous pourrez avoir plus de détails dans le livre à la recherche d'épistémé. C'est la question de comment se construit la vérité. Hein, j'entends la vérité comme le discours de personnes sur ce qu'est le réel et la réalité. Alors, bon, au contact des uns et des autres, hein, donc je me suis promené dans les pentes de la Croix-Rouge, j'ai rencontré à peu près tous mes collègues libéraux, j'ai rencontré tous mes collègues de l'hôpital, des spécialistes, notamment à l'hôpital de la Croix-Rousse, et puis des confrères qui avaient plus une pratique alternative. Donc, le discours des médecins sur l'hépatite B et sur le vaccin, bon, bien rapidement, on voit que c'est une façon aussi de façonner son identité. Dans les discours transpirent des notions d'identité et d'autorité avec le lien au professeur, comment est-ce qu'on est pour ou contre le professeur universitaire, son lien par rapport à l'académie, son lien par rapport à sa pratique, à ce que l'on voit. Donc des discours des collègues, on voit bien vite des mécanismes de conjonction entre les semblables. Hein, on se retrouve autour, moi je suis, ce que je sais sur l'hépatite B vient de ce que font les chercheurs à l'hôpital. Moi je suis les consignes du professeur de la Croix-Rousse. Et il y a aussi des mécanismes de disjonction avec d'autres, où on construit son identité en disant, non, moi je pense que l'hôpital, le professeur est trop influencé par tel ou tel laboratoire, par l'industrie pharmaceutique, et du coup moi en tant que médecin, je me mets à distance de ça, dans une pensée que je pense avant-gardiste et courageuse, où par exemple le vaccin n'a pas bien sa place. Alors, le savoir que construit la personne sur l'hépatite B ou sur le vaccin et aussi à penser comme un opérateur de la différence. Hein, comme le montre Geneviève Delbos, l'ethnologue, il y a ceux qui savent, c'est nous, et puis il y a ceux qui croient, finalement, c'est les autres, et c'est un mécanisme qu'on retrouve dans ce travail, mais comme dans beaucoup d'autres champs de la société. Alors, la construction de la vérité permet de façonner son identité en s'opposant ou en s'associant, mais aussi permet de construire sa relation de pouvoir, de prendre position dans le contexte social. Le contexte social est lui-même agencé par une exigence de positionnement. C'est la question du biopouvoir, hein, donc ça a évidemment été traité amplement par Michel Foucault. Résister à la vaccination devient pour certains une façon de signifier sa vie par une dynamique de réappropriation de son existence dans la quête d'une liberté estimée amputée. Hein, moi, je suis libre de ne pas recommander la vaccination en fonction de mes observations, en fonction de mes idées, et je suis libre de prendre des distances par rapport aux injonctions de l'État et du coup de retrouver une certaine liberté. Mais Michel Foucault lui-même, hein, cette notion de biopouvoir, il l'a recontextualisée en disant que le pouvoir doit aussi se vivre de l'intérieur, et il semble effectivement que la question du pouvoir va bien au-delà et en deçà des rapports entre des responsables politiques et des acteurs locaux, hein, mais il y a aussi des rapports de personnes qui se construisent entre les uns et les autres dans le quartier, voilà, où il y a eu des histoires entre les médecins du quartier sur un tel qui veut entraîner les autres dans tel ou tel projet. Quand moi j'allais voir les gens, on m'a rapporté que tel médecin avait dit, mais qu'est-ce qu'il cherche là, Jean Faya, avec son histoire d'hépatite B, quelles sont ses ambitions, comment veut-il se positionner. Donc voilà, évidemment ces questions dans l'élaboration d'un savoir du médecin, hein, puisque c'est l'idée de ce travail, c'est comment le médecin élabore son savoir, puisque tous les médecins ont un savoir différent, mais finalement quels sont les mécanismes. Donc ces mécanismes de construction identitaire, de s'affirmer dans une identité particulière, et de prendre possession, prendre une position dans un environnement social, permet de cette mécanique de prise de position entraîne un savoir finalement. Hein, le savoir sur l'hépatite B ou sur le vaccin n'est pas issu simplement de lecture, mais il est issu de façon très forte d'un positionnement. Je veux me positionner contre l'État, et du coup je présente ce savoir sur les choses. Je veux me positionner comme pro-science, comme admirateur et suiveur du discours hospitalier, c'est la façon dont je pense ma place dans la société, et du coup de cette position là va découler le savoir que je présente sur le vaccin, notamment à mes patients. Alors évidemment là on touche à des grandes règles ethnologiques ou anthropologiques, hein, c'est-à-dire cette façon de construire la vérité pour façonner son identité, ou construire la vérité pour trouver sa place et pour peaufiner ses rapports de pouvoir, a évidemment l'utilité première de donner du sens à son existence. Hein, au final, tout cet effort de construction de la vérité permet avant tout de savoir dans quel sens on va et de nous prévenir du chaos. finalement, par rapport à un enjeu thérapeutique, par rapport à un malade qui vient vous voir en tant que médecin, la position la plus difficile et la moins supportable est celle de ne pas savoir, de ne pas savoir du tout dans quel sens aller. Un patient qui arrive vous dire est-ce que je dois me vacciner ou pas contre l'hépatite B, évidemment, la position de dire franchement, moi je n'en sais rien, je ne sais pas, c'est une position qui est, à mon sens, intéressante, mais qui est difficile à tenir. Et pour beaucoup de soignants et au-delà pour beaucoup d'humains en général, cette vision chaotique des choses est une vision très inconfortable et il faut donner du sens, il faut trouver du sens. Il faut dire, je pars du principe qu'il faut d'abord écouter les tissus pour savoir ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut d'abord suivre les résultats de la science pour savoir où aller. Et du coup, quand on sait dans quel sens on va, on vit beaucoup mieux, et du coup pour ça il faut cette quête de sens, ce besoin de sens va créer le savoir, et les gens, les soignants vont produire un discours sur la vérité à leur patient aussi. Ce discours là vient du fait qu'il faut trouver du sens, qu'il faut donner du sens. Et si possible, dans le bon sens, c'est-à-dire, c'est le rêve de la panacée, aller vers un traitement qui est efficace, sans danger, et voilà. Et donc, si possible, le vaccin, il faut le penser aussi comme quelque chose qui, quand on le défend, qui marche et qui est sans effet secondaire notable. Prendre ses désirs, finalement, pour des réalités. Encore une fois, je ne rentre pas du tout dans le débat, c'est pas du tout mon ambition de savoir si c'est bien ou pas bien, mais plus d'illustrer les mécanismes anthropologiques par rapport aux soins. Alors, si le savoir se fabrique par la construction de l'identité, par des stratégies de pouvoir et les chemins pour trouver du sens, alors chacun de nous ne peut savoir que différemment, car chacun de nous a une façon personnelle d'être au monde et d'être avec les autres. Donc, de fait, on comprend bien que le savoir que je transmets aux patients et de façon plus large, le savoir que j'ai sur les choses en général, on peut largement dépasser l'observation des médecins, ce savoir provient de ce besoin d'être dans l'identité, d'être dans une position de pouvoir et donner du sens à ma vie. Donc ça, c'est la première partie de ce travail, mais évidemment que le médecin a aussi une ambition sincère d'accéder à la réalité du vivant. Donc, au-delà de ces mécanismes psychosociaux, on pourrait dire comment on s'y prend quand on est médecin pour accéder à la réalité biologique. Alors, moi, j'ai débattu dans mon travail de recherche de deux axes. Le médecin a un rapport au réel par la science et le médecin a un rapport au réel par l'expérience. Alors, le rapport au réel par la science, alors c'est bigrement d'actualité, avec tous les débats sur. On aurait pu, si on avait été tous ensemble autour d'une table, je pense bien débattre de ces questions-là. Comment on a accès à la réalité du vivant pour décider de stratégies thérapeutiques, de stratégies diagnostiques. Le débat actuel, on voit les professeurs se mangent entre eux, là, quasiment, est vraiment illustrateur de ces questions-là. Alors, la science, pour les médecins que j'ai rencontrés, pour tous, c'est quasiment la voie royale vers la réalité du vivant. Ça, il n'y a pas de contestation. Tout le monde reconnaît dans la science quelque chose de premier pour avoir accès à la réalité biologique. Mais en même temps, chacun, très honnêtement, chacun pressente ou reconnaît les limites de la démarche scientifique. Donc la référence scientifique est difficile à situer dans notre terrain de recherche. À l'époque, sur l'hépatite B, on peinait à voir où était la référence. Les uns semblant remettre en question les autres. Qui guide vers le réel? Qui autorise les positions? Où est le référent? Et je crois que, je me rappelle d'un jeune médecin hospitalier qui critiquait son vieux professeur en disant que ses positions parfois flirtaient avec la malhonnêteté. Je me rappelle d'un généraliste qui disait « Oui, mais on a beau jeu de critiquer les experts quand ils ne sont pas indépendants, quand ils sont liés au laboratoire, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment un expert ne peut pas être lié avec l'industrie pharmaceutique, avec Il entendait par là comment un expert peut se délier de l'expérimentation pharmacologique en laboratoire et donc de son application industrielle. Donc voilà, tout le monde finalement remet en cause tout le monde. On le voit là dans les débats entre le comité scientifique, le conseil scientifique qui conseille le président, des personnalités comme Raoult ou Toussaint, où on a l'impression, chaque fois qu'on écoute les uns, on a l'impression qu'il a raison, mais les uns et les autres se contredisent. La question de la référence aussi sur ces questions des méta-analyses ou des grandes enquêtes scientifiques. À l'époque, j'avais échangé avec un chercheur à l'hôpital de la Croix-Rousse qui disait que ces méga-études à la puissance statistique reconnue et suffisante pour prouver des choses scientifiquement, ces méga-enquêtes en double aveugle, en fait, c'est très rare finalement d'avoir recours à ces enquêtes parce qu'elles demandent des moyens très, très importants et qu'en général, les chercheurs n'ont pas. Et il disait... faire des programmes de recherche clinique de grande envergure, peut-être que moi, en tant que chercheur hospitalier, je n'y aurais jamais accès parce que nous n'avons simplement pas les moyens de le faire et d'y participer, ou alors simplement sur un champ, sur une question très, très particulière. Alors que moi, en médecine, on m'enseignait que, en fait, pour la vérité vient des études en double aveugle de grande ampleur, et en fait, en pratique, on s'aperçoit que ces études-là, on a rarement les moyens de les faire. Donc les professeurs et les experts sont critiqués, les équipes de recherche critiquent les autres équipes de recherche, les moyens d'études validées sont très rares, les études valides elles aussi sont très rares et laissent la place à ce qu'un chercheur de l'hôpital de la Croix-Rousse appelait publiquement la recherche observationnelle, où au quotidien le chercheur de l'hôpital va colliger les cas qu'il voit, les malades dans les lits, et va utiliser tel antibiotique sur une 5 ou 6 patients, puis voir qu'est-ce qu'il observe, et faire des articles là-dessus, donc qui n'ont pas de puissance statistique, mais qui ont l'intérêt de l'observation. Donc la science, dans le travail que j'ai effectué, c'est ça qui m'a marqué, la science semble parfois sans référence. Alors moi, bien sûr, j'ai particulièrement étudié dans ma thèse en anthropologie l'histoire de la polémique autour du vaccin de l'hépatite B, vous savez, dans les années 1980, où suite à le déclenchement d'une sclérose en plaques chez deux infirmières, la communauté scientifique et les citoyens se sont demandé si le vaccin entraînait pas comme effet secondaire principal et peut-être courant la sclérose en plaques. Alors il y a eu toute une série d'études menées, beaucoup de débats médiatiques, beaucoup de prises de parole de Philippe Doustoblasi, qui était alors ministre de la Santé, pour savoir si oui ou non il y avait un risque à vacciner les personnes, et en tout cas le vaccin de l'hépatite B est marqué par cette histoire, ou même 40 ans après, les patients ont encore une réticence par rapport à ces questions-là. Alors, il y a eu une dizaine d'études scientifiques de menées, et on observe dans ces études que successivement elles construisaient des faits scientifiques. Il y avait des données, et finalement ces données-là étaient jugées valides ou scientifiques à l'issue de tout un processus de mesure, qui au final il fallait interpréter, mais aussi de rencontres, d'échanges, d'évaluations, de quantifications, de mise en relation avec des connaissances préalables. Et du coup, ça donnait l'impression que l'observation clinique, l'observation au lit du malade, l'observation du patient, semblait alors perdre de son rôle au profit d'un cadre interprétatif beaucoup plus vaste qui, lui, allait qualifier les faits et les données. On se demande alors si ce ne sont pas avant tout les catégories de la pensée scientifique qui marquent les objets avant même qu'ils soient observés, comme si les données brutes étaient déjà des interprétations. Dans toutes les études, une dizaine, la plupart n'ont pas prouvé de lien entre la sclérose en plaques et le vaccin de l'hépatite B, sauf une étude du professeur Hernan, un neurologue américain, qui a montré un lien entre la sclérose en plaques et le vaccin sur une population tout à fait précise alors je n'ai plus les choses en tête, mais je crois que c'était sur une catégorie d'enfants. Voilà. Et lui n'allait pas dans le sens de la théorie générale de la médecine de l'époque qui disait qu'il n'y avait pas de lien entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Lui, sur une catégorie d'âge particulier, donc c'était pas un résultat global, lui a montré un lien, mais lui-même d'emblée n'a dit mais ça, cela ne remet pas en cause la vaccination contre l'hépatite B dans l'histoire du bénéfice-risque, puisque c'est un phénomène limité et qui n'a pas en termes de risque. Qui ne remet pas en cause le bénéfice de vacciner le monde contre cette maladie avec tous les dégâts que l'on connaît. Et en fait, malgré ce positionnement qui semblait honnête de ce chercheur, les détracteurs de cette position ont complètement démonté, critiqué son étude, à chercher des incohérences dans tous les sens et à déstructurer son travail, à démonter son travail, alors que lui-même avait travaillé, je pense, comme tous les autres. Et finalement, alors qu'on avait l'impression que sa démarche était la même que tous les autres chercheurs, que finalement ses conclusions, même si lui ne remettait pas en cause le vaccin, étaient de fait inacceptables et que l'idée c'était de par un effort interprétatif de décider que son travail n'était pas valide. Ainsi, les spécialistes en médecine et les chercheurs que nous avons rencontrés apprennent, en quelque sorte, à produire le fait scientifique, à montrer qu'il se distingue d'une mauvaise hypothèse, en usant de procédures qui sont d'abord des procédures codifiées par le groupe. Le fait en construction est discuté et négocié. Tant qu'il n'y a pas d'accord, le travail continue. Quand l'accord survient, le travail s'arrête. Sur l'histoire de l'hépatite B, c'était ce qui était gênant dans l'étude de Hernan, c'est qu'elle est arrivée au moment où finalement tout le monde semblait être d'accord sur le fait que le vaccin n'entraînait pas la sclérose en plaques. Et lui arrive avec une information différente, et du coup, alors que le consensus était là et que tout le monde était content, il faut reprendre le travail. Et reprendre le travail, ça n'est pas forcément faire une nouvelle étude pour voir la réalité biologique, parce qu'encore une fois, c'est très difficile de le faire et les moyens ne sont pas là, mais reprendre le travail, c'est par des efforts interprétatifs de rencontres et de réunions, arriver à un consensus, retrouver un consensus. Donc finalement, la fiabilité d'une donnée scientifique est accordée par les uns et les autres, par une interaction, par des rencontres. Et c'est d'abord par ces rencontres-là que la fiabilité est accordée, plus que finalement par une évidence que la nature imposerait par une observation clinique. Donc c'est de cette interaction entre les personnes qui est décrétée l'objectivité du fait. Et du coup, les découvertes en médecine et en science sont aussi façonnées par les interactions sociales. L'activité scientifique ne porterait pas seulement sur la nature, mais aussi sur une lutte acharnée pour construire la réalité. Et donc là, la science est nettement plus humaine qu'elle ne paraît. Moi, j'ai beaucoup aimé un auteur qui s'appelle Bruno Latour, et notamment dans un de ses bouquins que je vous conseille, qui s'appelle « Les petites leçons de sociologie des sciences », où il dit finalement qu'imaginer la science comme objective et froide est une idée saugrenue. Je le cite en page 8. Protéger les sciences et les techniques contre la pollution des sujets et des passions humaines, mais elles disparaîtraient. Garantir les sujets de droit contre l'envahissement par les sciences et les techniques, mais ils s'évanouiraient. Étrange rationalisme, curieux humanisme, qui veulent tuer ce à quoi ils disent tenir comme à la prunelle de leurs yeux. La mise en scène de l'auteur dans cet ouvrage, de quelques disciplines savantes, hein, il a traîné ses guêtres dans les laboratoires, montre que le trajet vers l'effet objectif que l'on attribue souvent à la science, qui protégerait ainsi des passions subjectives, est en fait exactement inverse. Alors voilà le rapport à la réalité biologique du soignant par la science. Passons à la deuxième dimension, le rapport à la réalité biologique par l'expérience. Et là, nous approchons doucement du projet de l'ethnocafé qui commence à se dessiner. Des entretiens que j'ai faits avec les médecins sur les pentes de la Croix-Rousse, qu'est-ce qu'il était dit sur l'expérience ? Il semblait assez général que l'expérience du praticien reste finalement toujours dans ses représentations dans l'ombre des théories scientifiques. Le médecin est marqué par Claude Bernard, hein, surtout à Lyon avec l'université Claude Bernard. Claude Bernard disait « L'empirisme, quand on s'y arrête, arrête la science et abrutit l'esprit. » Le médecin se méfie donc de l'expérience. Je me rappelle d'un collègue médecin généraliste qui parlait d'un cas qu'il avait marqué d'un enfant qu'il avait vu mourir à l'hôpital d'une méningite et qui avait une otite. Et il disait « Bah oui, certes, il aurait eu des antibiotiques pour son otite, il ne serait pas mort de la méningite. Mais en même temps, cette otite était probablement virale. Du coup, effectivement, les antibiotiques étaient inutiles. » Et il finit en disant « Mais j'arrive quand même à ne pas me laisser biaiser par ce que je vois. » La distinction entre savoir théorique ou scientifique et savoir pratique semble toujours très présente dans la pensée la plus générale en médecine, et avec une bipolarisation assez forte entre la théorie et la pratique. La théorie de la science rassemblerait tout ce qui appartient à l'universel, à l'abstrait, au déductif, à l'applicable, au transposable dans la pratique, quand la pratique, finalement, elle, irait dans l'autre sens, rassembler tout ce qui a trait au local, à l'éphémère, à l'incertain, au désordonné, à l'inductif. Mais pourtant, dans ce travail de recherche, d'autres voix se sont fait entendre. J'ai rencontré des personnes qui m'ont marqué, qui m'ont interrogé par leurs discours différents. Je pense notamment à Franck F., je l'appellerai comme ça, un médecin pas très loin de mon cabinet, qui a une pratique de la médecine, mais aussi du chamanisme, il allie les deux. Et c'est lui qui m'a donné des mots-clés qui ont tourné dans ma tête pendant bon nombre de mois. Quand Franck F. dit « soigner comme un poète », au début ça m'a fait sourire, mais c'est la première fois que le mot de poésie s'est associé pour moi aux soins. Et Franck F. dit aussi « soigner avec son amour ». Pareil, je n'avais pas vraiment utilisé ces termes ou entendu utiliser ces termes jusque-là dans mon parcours médical. Et pour lui et pour d'autres médecins, notamment que j'ai qualifié de médecins alternatifs, la question du voir a fait éruption. Dans une sorte de distinction entre une intelligence discursive, où on parle d'expliquer, de regarder, de savoir, et une intelligence plus pratique, où on parle de comprendre, de voir, de montrer. La question du voir est centrale. Le sociologue Roger Cornu l'a pas mal étudié. Il dit « voir supposerait un processus extrêmement complexe grâce auquel l'homme de connaissance pourrait voir l'essence des choses de ce monde, même si elle est invisible au regard. » Voir l'essence des choses de ce monde. Voir l'essence de la réalité biologique que l'on cherche à accéder. Et là, on rentre dans le dur. On rentre dans l'intuition d'une vérité première. Et pour aller plus loin dans ces notions-là, il faut aller plus loin et essayer de sortir, autant faire se peut, de notre culture pour s'intéresser à d'autres cultures. Et c'est là où est arrivé l'intérêt pour notamment pour le chamanisme, cette pratique de soins qui date, on va dire, d'avant la médecine occidentale, qui est ancestrale et qui est notamment pratiquée dans des sociétés chamaniques en Amérique latine, avec les chamans d'Amazonie, ou aussi évidemment dans plein d'autres coins du monde, hein, en Afrique et en Europe, enfin en Asie, notamment en Sibérie. Il y a un anthropologue qui a écrit un livre, Michel Perrin, que j'ai beaucoup aimé, que je vous conseille, qui s'appelle « Les praticiens du rêve », où il parle de cette capacité de la chamanista Cataquilina chez les guajiros au Venezuela à épier d'abord, à observer aussi bien le malade que son environnement familial. Cette façon d'observer est telle qu'elle n'a plus besoin de ses yeux pour voir. Elle devient capable à la fois de voir ce monde-ci, mais aussi le monde autre, notamment en rêvant sur commande, par la consommation de tabac. Et non seulement elle voit, mais elle voit tellement qu'elle prévoit, qu'elle arrive à prédire ce qu'il va se passer. Et donc cette capacité à voir, cette capacité à être dans l'expérience du praticien, nous amène à cette notion de savoir d'action. Le savoir pratique est souvent ignoré des acteurs eux-mêmes, car c'est un savoir qui n'est pas donné comme tel, qui n'est pas livré dans un article de formation scientifique ou dans les conclusions d'une étude. Mais c'est un savoir qui se ferme en même temps que le vécu, à force de répétition, à force de réactivation d'expériences passées, qui finalement va s'abolir dans le naturel. Ces savoirs sont souvent des savoirs ignorés, qui ne sont pas accessibles par le discours, mais que l'on peut voir dans l'efficacité. Parce que Frank F. le disait, il se voit très efficace. Et ça me rappelle une lecture que je vous conseille là encore de Philippe Descola dans son bel ouvrage « Par-delà nature et culture », où il parlait des chasseurs à choir, donc le groupe de personnes dans lequel il vivait pour son travail de recherche. Je crois qu'il y a passé 3 ans, notamment avec sa femme, accueillie dans une famille. Et du coup, il a participé aux chasses dans la forêt. Et il se disait, mais pourquoi finalement le chasseur de 30 ans, qui était, j'imagine, pour ce groupe-là, un âge plutôt avancé, était nettement plus efficace à la chasse que le chasseur de 16 ans, qui lui était plus fort et plus vigoureux. L'auteur se demande ce qu'apprend de plus le chasseur trentenaire dans ce laps de temps. Et il émet l'hypothèse qu'il complète sans doute pendant ces années son savoir éthologique et sa connaissance dans les interdépendances écosystémiques, au fil des promenades dans la forêt, toutes ces observations qu'il a faites, tous ces sentiments, toutes ces choses qu'il a ressenties. Et donc l'essentiel de son acquis, du chasseur trentenaire, consisterait probablement en une aptitude de mieux en mieux maîtrisée à interconnecter une foule d'informations. Ce sont les chaînes de la pratique. Et probablement qu'il en est de même pour le praticien qui vieillit. Le praticien trentenaire reste un jeune praticien, mais le cinquantenaire, et je peux en témoigner, peut-être a un savoir d'action qui lui est propre et propre à son parcours et à son âge. Moi, je me rappelle de ma première garde en tant qu'interne, ça m'avait marqué, cette terreur la première fois que vous êtes votre premier jour d'internat et qu'il faut aller faire une garde aux urgences le soir. Je me rappelle de cet instant où mon premier patient avait une entorse de cheville. Bon, je savais parfaitement traiter l'entorse de cheville. En théorie, il faut, immobilisation, antidouleur, voire anti-inflammatoire. Mais devant l'ordonnance, c'était le trou noir. Comment on prescrit un anti-inflammatoire? C'est une chose d'avoir l'idée, mais c'est autre chose de savoir d'avoir écrit 1000 fois le nom du médicament, la dose, la durée. Et j'étais complètement paralysé et honteux. Je suis allé demander au médecin senior à côté de moi comment on prescrivait. Il m'a regardé, je vous dis pas, avec un regard désespéré. Donc c'est cet engagement dans l'action qui va donner accès au réel et au savoir-faire. Alors faut-il ici aller jusqu'à un retournement qui prétendait que l'expérience est d'un enseignement plus fiable, d'une capacité supérieure à mener au réel que celle des théories et des scientifiques? Où on peine à voir la référence. Peut-être que ce savoir-là serait moins sensible à l'obsolescence. Il y a des savoirs ancestraux qui perdurent, et on voit en science, et ce qui est fascinant dans la science, c'est que tous les 10 ans, la plupart des savoirs sont remis en question. J'en arrive à la fin. Je crois que ce que j'aimerais vous faire sentir en parlant du rapport à la science des médecins, en parlant du rapport à l'expérience, c'est qu'on a une voie vers une philosophie scientifique que l'on essaye de fonder à l'ethnocafé et de faire vivre. C'est la recherche de notre épistémé, notre philosophie scientifique. On aime bien Wittgenstein, le philosophe, dans son œuvre, qui avance que plus nous allons dans le sens d'une généralisation explicative, plus en fait ce que nous croyons éclairer s'obscurcit. Finalement, plus vous théorisez en science, plus vous amenez la théorie, plus vous éloignez de fait de la chose même que vous voulez étudier. Et du coup, tout cela invite à d'autres approches, à d'autres voies, à ne pas craindre des tentatives d'aller autre part, d'aller dans des trajets plus chaotiques, d'aller dans une anthropologie finalement déstructurale, pour faire un clin d'œil à notre maître Lévi-Strauss. Une anthropologie qui finalement serait sans fondement, comme pourquoi pas une science qui devrait être sans fondement. Le projet de l'ethnocafé est bien celui de re-questionner les frontières. C'est une nécessité scientifique, toujours re-questionnée. Notamment la frontière entre le praticien et le scientifique. Bruno Latour se l'est permis, lui, de se permettre l'effronterie de refuser tout bonnement l'existence du savoir scientifique. En théorie, les théories existent et en pratique, elles n'existent pas. Est-ce qu'on n'est pas tous des praticiens? Est-ce qu'on n'a pas toujours affaire à des pratiques? Comme le dit Bruno Latour, nous ne produisons pas plus une théorie de façon théorique que nous produisons une pièce d'acier de façon acière, un réflexe conditionné de façon pavlovien, un meeting politique de façon inculpante. C'est-à-dire le chercheur que j'ai rencontré à la Croix-Rousse. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans la pratique. Il est dans sa pratique quotidienne de l'hôpital. Il est dans son observation, dans sa recherche observationnelle, à colliger les cas, à observer. Tout est différent par rapport à un médecin généraliste. Il a une blouse blanche, le généraliste n'en a pas forcément. Il a accès à un plateau technique, mais en pratique, il est dans la pratique. Mais on le sent bien. Dynamiter cette colonne faite de nos savants. Leur reconnaître le même savoir que le praticien dans son cabinet vient déstructurer complètement aussi les rapports de force entre nos acteurs de santé et les rapports sociaux en général. C'est la fonction politique du scientifique. Alors oui, là, on peut parler de force de la théorie. Si l'on supprimait cette différence, si l'on dynamitait la distinction entre le scientifique et le praticien, ceux qui se définissent comme de simples et vertueux praticiens un peu moqueurs du scientifique dans sa tour d'ivoire de l'hôpital universitaire, victimes désignées d'une soi-disant tyrannie, seraient bien en mal avec cette idée que nous aurions tous au même titre accès à la réalité du monde. Le scientifique fait malgré tout rêver, on le voit dans les médias, on le voit aujourd'hui, tous ces scientifiques que l'on interroge et qu'on regarde avec passion. Ils offrent l'espoir qu'un savoir est possible sur les choses. Ils offrent à moi, le praticien, la position confortable, où mon bon sens a légitimité à s'exprimer, mais en même temps où je suis protégé de cette injonction à innover, du risque qu'ils prennent d'envoyer le collectif dans le mur, de supporter les tableaux des logiciels statistiques, d'assumer la médiatisation des idées. Comme le dit Latour, mieux vaut maudire les théoriciens coupés de la réalité et payés à ne rien faire, plutôt que de les perdre et partager le risque de leur métier. Ainsi, le scientifique, dans son service et dans son laboratoire universitaire, offre l'ordre politique. Il permet justement aux identités de ne pas être toutes identiques et on en revient à la problématique de départ. La science a ce rôle politique et probablement que dans une certaine mesure il est nécessaire. Mais il est parfois déconnecté de son travail fondamental qui est le rapport à l'accès à la réalité biologique. Donc, re-questionner les frontières, c'est aussi ça. C'est s'accorder à accorder à la science un rôle tout autre que celui auquel on pense en premier. Celui de son rôle politique, celui de nous prévenir du chaos, de donner l'ordre et le sens. Et par cette interrogation sur les frontières, par cette remise en cause des frontières, l'intérêt pour l'ethnocafé, c'est d'ouvrir le champ. Je crois qu'on s'accorde tous avec cette idée-là. L'ethnocafé, son objectif, c'est d'ouvrir le champ et de sortir d'un cadre épistémologique convenu. À l'issue de mon travail, je pense encore qu'il est utile de vacciner contre l'hépatite B. Finalement, je n'ai pas remis ça en cause et je continue en tant que médecin généraliste à le proposer à mes patients. Mais ce qu'on conteste définitivement, c'est le cadre épistémologique convenu, l'organisation politique de la connaissance, la domination des uns sur les autres. Nous dénonçons une certaine uniformisation par l'hégémonie de certains savoirs savants ou d'autres savoirs corporatistes, de processus intellectuels particuliers, de manière de réfléchir, de sentir, de percevoir, désignés comme la référence par une minorité. Alors oui, on le comprend, d'accord, ce cadre donne un ordre indispensable, mais il enferme aussi les projets de connaissances autres et empêche dans une certaine mesure de s'approcher des choses en elles-mêmes. Cette façon qu'on a de penser la médecine avec le scientifique en haut, le naturopathe en bas et le généraliste au milieu, adoptée par les trois quarts des médecins rencontrés, et nous l'imaginons peut-être par une majorité de la société. C'est un étalon pour juger de la pratique des uns et des autres, que nous devons sans aucun scrupule aussi dynamiter. C'est une impasse pour comprendre l'intelligence et la diversité des relations que les humains lient entre eux et lient avec le monde. Nous voulons faire effort, maintenant, pour considérer, mais comme le font bon nombre d'autres sociétés, qu'il y a un accès possible au réel, à ce que c'est que la santé, la biologie, le soin, justement parce que la personne sait. Elle sait car elle fait partie du monde qu'elle veut connaître. Frankev, comme il disait qu'il voulait soigner comme un poète, s'apprêtait à sourire et ça m'a fait sourire. Mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose là à creuser. La notion de poétique du soigné, en écho à la poétique de l'habité que Tim Ingold a beaucoup travaillé. Et là s'ouvre la porte vers ce qu'on appelle la poétique de soin. À l'ethnocafé, ce travail sur tout l'apport du regard poétique. Donc plusieurs moments seront consacrés à ça à l'avenir. Et de ces questions poétiques, de ce que nous apprend la poétique, on apprend aussi sur l'organisation commune. Et de là peut découler une autre vision de la politique, ce qu'on appelle notre république de l'ethnocafé, la république que nous voulons fonder. Enfin, que nous voulons fonder dans les idées. Et situer le savoir de l'acteur de santé, le savoir du soignant, le savoir du médecin, en tant qu'une action qui est inscrite dans son corps, dans son histoire, ça permet de déboucher sur une conception qui voit les capacités de savoir, les capacités cognitives, comme inextricablement liées à nos vécus, à nos histoires. Un peu finalement à la manière d'un sentier qui n'existe que dans la mesure où on les trace où on le trace en marchant. C'est ce que Francisco Varela appelle le principe de l'inaction. Pour Varela, la connaissance de la connaissance nous oblige à reconnaître que la certitude n'est pas une preuve de vérité. La certitude scientifique n'est pas une preuve de vérité. Que le monde que chacun peut voir n'est pas le monde, mais un monde que nous faisons émerger avec les autres. La connaissance de la connaissance nous oblige à nous rendre compte que le monde serait différent si nous vivions différemment. Et là s'ouvre la deuxième porte vers l'expérience, vers ce qu'on appelle la méthodologie mouvementée. La prise, être pris dans le mouvement du monde, autant que lui donner sa part. Et j'en terminerai là. Je crois que le projet de l'ethnocafé, c'est une volonté d'écouter d'autres sens culturels que le nôtre, de savoir rendre les cultures audibles les unes aux autres. Et je crois que c'est notre démarche dans l'exploration du chamanisme qui a une place très importante dans l'Institut depuis sa création. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas que là à questionner la médecine. Questionner la médecine sur ses vérités, c'est aussi mettre l'anthropologie face au miroir. Parce que le projet anthropologique, lui aussi, reste un projet fragile. Il n'y a pas que la médecine qui est mise en cause. Car le projet anthropologique est incrusté de la croyance dans le fait que nous, chercheurs, nous sommes en capacité de comprendre et de penser l'autre aussi bien, sinon mieux, qu'il ne se pense lui-même. Il faut sortir de ça. Il faut constater aussi l'absence de fondement à nos connaissances. Il faut voir autrement notre vérité et voir autrement notre chemin vers la réalité. Il faut quitter cette histoire de distinction entre l'objectivisme et le subjectivisme. Mais qu'est-ce que l'objectivité? Peut-être aller dans une voie qui nous montrait ce qui va de soi ou ce qui va de l'autre. Et en tout cas, deux auteurs, Husserl et Merleau-Ponty, nous montrent la voie avec la phénoménologie, en disant qu'il faut revenir aux choses mêmes. Parce que revenir aux choses mêmes, c'est revenir à ce monde avant la connaissance. Et c'est le grand axe théorique de l'Institut, la voie de la phénoménologie. Nous en reparlerons. En tout cas, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine étape, qui sera la rencontre et la formation dédiée à la méthodologie mouvementée. On rentrera dans les choses plus pratiques. Et la troisième rencontre autour de la poétique de soins, où là aussi nous serons plus dans les exemples. N'hésitez pas à réagir à cette intervention et je vous dis avec beaucoup d'impatience que j'espère que l'on se retrouvera bientôt à l'Ethnocafé. Merci.